Ne les perds pas.
Alors, merci beaucoup. On va peut-être prier avant de regarder ce soir. Seigneur, nous sommes tellement contents de te connaître, d'avoir cette possibilité d'être appelés tes enfants. Seigneur, dirige nos pensées, conduis notre discussion pour que nous puissions aussi puiser dans ta parole et apprendre des choses qui peuvent être utiles dans notre marche avec toi. Encourage-nous tous et merci pour ce bon week-end ensemble. Merci pour cette église, tout ce que tu es en train de faire. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Alors, jusqu'à là, j'apprécie beaucoup être avec vous. Vicky, ce n'est pas du tout ce que Rob m'a dit, hein, ils sont gentils.
Ouais. Marseillais.
Je plaisante. Alors, si je vous demande, quel était le plus grand péché du roi David, qu'est-ce que vous direz?
Bathsheba.
C'est le dénom
de Marie.
Souvent, on pense tout de suite à l'adultère avec Bathsheba et même la mort de Uri, son mari. Et franchement, l'adultère et le meurtre sont des gros péchés, ça c'est sûr. Avec des conséquences graves, très graves. Mais David a commis un autre péché. Je ne peux pas dire le niveau, mais au moins les conséquences étaient beaucoup plus graves. À cause de l'adultère de David, 4 personnes sont mortes. Uri, le mari, le bébé qui est né,
oui.
Amnon, le fils de David, et finalement Absalom. C'est tout lié, vous pouvez voir. Mais à cause de l'autre péché de David, 70 000 personnes sont mortes. Quand David a confessé son péché de meurtre et d'adultère, il a dit, j'ai péché. Mais quand il a confessé l'autre péché qu'on va voir ce soir, il a dit, j'ai commis un grand péché, j'ai fait le mal, j'ai agi comme un fou. Alors, quel était cet autre péché? On va voir en 1 Chronique, chapitre 21. Voilà, le nombre monde du peuple. 1 Chronique 21. Et je vais essayer de lire pas tout le texte, mais au moins certains versets qui vont nous aider ce soir. On commence avec le premier verset, 1 Chronique, chapitre 21. Il dit, « Satan se dressa contre Israël et incita David à faire le recensement d'Israël. Alors David ordonna à Joab et au chef du peuple, comment ? C'est bon ? Allez recenser les Israélites aptes au service militaire, depuis Beersheba jusqu'à Dan, puis revenez me faire votre rapport, que je sache quel est le nombre. » Et Joab qui n'était pas du tout un homme spirituel, mais il était leader, « Que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous aujourd'hui déjà des sujets de mon Seigneur ? Pourquoi alors mon Seigneur ordonne-t-il une chose pareille? Pourquoi changerait-il Israël d'une faute? Pourquoi changerait Israël d'une telle faute? » Et puis, si on continue un peu plus loin, verset 7, il a nombré le peuple à partir de verset 4. Et puis verset 7, « Cet acte déplut à Dieu et il sévit contre Israël. » Alors David dit à Dieu, « J'ai commis une grave faute en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner la faute de ton serviteur, car je reconnais que j'ai agi tout à fait comme un insensé. » Incroyable, n'est-ce pas? Et puis, si on descend un peu plus loin, peut-être... Il donne les choix à David. Par exemple, verset 11, il dit il faut choisir. Et la première chose, verset 12, 3 années de famine ou, deuxième chose, 3 mois de défaite devant tes ennemis. pendant lesquels leur épée causera les ravages dans tes rangs, ou, troisième possibilité, 3 jours durant lesquels l'épée de l'Éternel frappera le pays de la peste et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Et il demande à David à réfléchir ce qu'il veut. Et quelle est la réponse de David? Parce que c'est le prophète qui lui parle, verset 13, il dit « Ah, que je tombe plutôt entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » L'Éternel fit donc servir une épidémie de peste en Israël, et 70 000 Israélites moururent. On va voir un peu plus loin plus tard, mais intéressant, n'est-ce pas? Cette histoire. Je me souviens quand j'étais plus jeune et j'ai lu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais, troisième attaque que nous verrons ce soir, par l'ennemi Satan, et ce n'est pas seulement à David, mais c'est à nous aussi, c'est sur la, contre la volonté. La volonté. En fait, le but de Satan est toujours de contrôler notre volonté. Il peut commencer par l'esprit, avec les pensées, comme il a fait pour Ève. Il peut faire par le corps, comme il a fait pour Job, on a vu ça. Mais son vrai désir, c'est d'aller plus loin et toucher la volonté pour qu'il nous contrôle. Mais si, ici, dans ce texte, Satan a fait un raccourci pour aller directement à la volonté, sans passer par l'esprit ni par le corps. Directement, la volonté de David. L'esprit de David n'a pas été trompé. Vous pouvez lire tout le chapitre. Il a les yeux grands ouverts quand il fait cette bêtise, quand il se rebelle contre Dieu. Il n'a pas une souffrance dans son corps physique. Tout allait très bien pour lui. Mais on va parler de la volonté ce soir, parce que la volonté est très importante pour les chrétiens. Trop de personnes ont une religion intellectuelle, même des chrétiens, qui restent dans la tête, mais qui ne transforment pas leur manière d'agir et leur vie et les actes. C'est les gens qui savent parler de toutes les grandes doctrines qui se trouvent dans la Bible, mais ils ne les vivent pas. Ils ne mettent pas en pratique. Et puis, il y en a d'autres, c'est le contraire. Ils ont une religion basée sur les émotions, les sentiments, qui changent tout le temps. Leur vie est instable. Vous connaissez peut-être les gens comme ça aussi. Dieu veut que l'homme entier soit consacré à lui. L'esprit, les pensées, l'intelligence, le cœur ou les émotions, et aussi la volonté ou l'obéissance. Il veut tout. C'est-à-dire, notre obéissance devrait être intelligente et devait être basé et que ça devrait sortir d'un cœur plein d'amour pour le Seigneur. Marc chapitre 12, verset 30, Jésus dit, « Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Il veut tout. Un chrétien consacré, il prie. Même s'il n'a pas trop envie... pour l'instant, prier, mais il sait que sans la prière, il ne sera pas la volonté de Dieu. Un chrétien consacré, il obéit, même s'il est tenté, il a envie de faire autre chose, parce qu'il sait ce qu'il faut faire. Le chrétien qui vit par ses émotions, il y aura tout le temps les hauts et les bas, les hauts et les bas, selon les circonstances dans sa vie. Alors, la volonté est tellement importante parce qu'elle nous aide à construire notre caractère pour le Seigneur. le péché originel de Satan était un péché de volonté. Satan a dit 5 fois dans le texte qu'on va lire, en Ésaïe 14, versets 12 à 14, 5 fois il dit « je ferai ». Ésaïe 14, verset 12 dit ceci. « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, toi qui terrassais les nations, comment est-il possible que tu aies été abattu à terre ?» Verset 13. « Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines, je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée des dieux, aux confins de Septentrion. » Et verset 14, « Je monterai au sommet des nuages, je serai semblable au Très-Haut. » Voilà le péché de Satan. Et voici le péché que Satan veut reproduire dans nos vies, parce qu'il sait ce que ça peut nous faire. Donc, quelle est son arme? La cible, c'est la volonté, mais quelle est son arme? C'est l'orgueil. L'orgueil. David se sentait important. Il a eu des victoires. Alors Satan vient semer cette idée de compter le peuple. Une idée, quand je lis le texte, je dis, ben, ça semble innocent, non? Ce n'est pas une mauvaise chose de faire un recensement. Sauf que si vous lisez le chapitre avant, 1 Chronique, chapitre 20, qui raconte l'histoire de beaucoup de victoires de David. Et ça finit, David finit par perdre la guerre, c'est-à-dire avec sa propre vie. Parce que Satan a utilisé ses victoires pour gonfler son ego, pour rebeller contre la volonté de Dieu. Il y a un verset en Proverbes, chapitre 16 et verset 18, qui dit « L'orgueil précède le désastre et un esprit arrogant précède la chute. » C'est vrai, hein? Il y a des péchés de la chair, David et Bathsheba. Il y a aussi des péchés de l'esprit. Je pense à l'histoire que Jésus a donnée du fils prodigue et le grand frère. Le fils prodigue était coupable de plein de péchés de la chair, mais le grand frère, coupable d'un côté critique, et critiqué ce qui se passait, un péché d'esprit. Et Satan ici attaque avec l'orgueil. Il vient souvent avec ce message à nous aujourd'hui. Vous serez comme Dieu, comme des dieux. Ça n'a pas changé. Même chose pour Ève qu'on a vu l'autre soir. Vous pouvez agir indépendamment de Dieu dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de Dieu pour faire toutes ces choses. Vous pouvez être votre propre Dieu. C'est malin. L'orgueil gonfle l'homme. Et l'orgueil dérobe Dieu de sa gloire qu'il doit recevoir, que lui seul est digne. Mais où était ce problème avec ce désir de compter le peuple? Où est le mal? Je pense que c'est parce que quand David l'a fait, il l'a fait pour qui? Pour Dieu? Pour le peuple? Pour sa propre gloire, n'est-ce pas? L'idée était si contraire à la volonté de Dieu que même Joab, son chef, qui n'était pas du tout un homme spirituel, il a résisté l'ordre du roi. Non, fais pas ça, au début. Vous voyez la ruse de Satan qui entre au moment quand David se sentait important, un succès, vainqueur, suffisant en lui-même. Et Satan utilise ses pensées pour gonfler l'ego de David et l'emmener au péché, la chute. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a donné cet avertissement par Timothée pour nommer les responsables à l'Église. 1 Timothée, chapitre 3, verset 6. « Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. » Nous connaissons cette histoire trop souvent, n'est-ce pas? Dans les églises, j'ai implanté, je n'ai pas toujours bien choisi, ce n'était pas que moi qui a choisi, mais Satan utilise la situation de responsable. Souvent, il y a un jeune qui arrive, jeune converti, plein d'enthousiasme, plein de talent, et on lui donne la responsabilité d'une position importante, parce qu'il attire les autres. Et Satan utilise la situation pour que la personne se sente importante et que la personne dirigée par son orgueil devient un vrai problème au sein de l'Église. Ça fait des dégâts. Vous savez, le but de Satan est toujours d'empêcher le ministère de l'Église, la progression de l'Église. Et pour l'accomplir, il doit travailler en et à travers les chrétiens, surtout les responsables. Et cette arme, l'orgueil, fait beaucoup de dégâts dans nos églises. Je suis appelé, des fois, pour aider dans une église à cause de ce problème avec un leader. Un pasteur fier de son ministère, même fier de sa prédication, de ses sermons, sa manière de faire. Un chanteur ou une chanteuse, un musicien, content de sa capacité. Un leader fier de sa façon de faire, qui est applaudi par les autres. Ah, il est super. Et puis Satan met son pied pour attaquer, pour détruire, pour arrêter la bonne marche de l'Église. David a apporté la tristesse et la mort en Israël à cause de son orgueil. Et quel était le but? Le but, nous faire agir indépendamment de la volonté de Dieu. Dieu nous a créé, l'homme, un être dépendant. Dépendant de notre Créateur. Nous sommes les créatures dépendant d'un Créateur. Acte 17, verset 28. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous sommes dépendants de lui. Mais le péché, c'est de vouloir être indépendant et de croire ce mensonge de Satan. Vous serez comme Dieu. Vous n'avez pas besoin de Dieu pour faire ces choses. Vous avez beaucoup de talent. Si Satan peut vous tromper pour vous faire penser et agir indépendamment de la volonté de Dieu, il arrive à contrôler ta vie. Et le pire, c'est que c'est à ce moment-là où vous penserez que vous êtes plus fort, que vous êtes plus libre, vous arrivez vous-même. Mais en fait, c'est la ruse de Satan pour vous tromper. La volonté de Dieu est la partie la plus importante dans la vie d'un chrétien. On oublie souvent ça. C'est-à-dire, le diable veut nous faire ignorant ou même impatient avec la volonté de Dieu. Il fera tout pour que la volonté de Dieu ne soit pas à l'œuvre dans notre vie, pas notre vie. Dans ce texte, on peut lire, Dieu a attendu 18 mois presque pour David de se repentir. Intéressant pour moi de savoir que David est resté dans sa rébellion, de savoir que c'est vrai, l'orgueil se nourrit, l'orgueil gonfle. Et c'est de plus en plus dur de l'arrêter. C'est pourquoi nous avons besoin d'apprendre l'importance de notre besoin de Dieu pour tous les jours. Nous ne pouvons pas agir indépendant de notre Créateur. Mais le succès, la flatterie des âmes, même la bénédiction de Dieu, ce sont des choses qui peuvent nous gonfler autant que nous ne voulons plus voir, nous ne pouvons plus voir notre besoin de Dieu. On peut agir nous-mêmes. Je pense à l'histoire du roi Ozias dans l'Ancien Testament, 2 Chroniques 26, versets 15 et 16. C'est marqué « Lorsqu'il fut devenu puissant, son cœur se gonfla d'orgueil, ce qui entraîna sa perte. Il fut rebelle contre l'Éternel. » Je pense à Moïse, ce qu'il a averti le peuple, la même chose. Attention lorsque vous sortez du pays d'Égypte, que vous n'oubliez pas qui vous a fait sortir. C'est pour cela que l'apôtre Paul aussi était content avec ses difficultés. Et il a dit, 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, alors je suis fort. » C'est la force de Dieu. Attention, si vous commencez à penser que pas mal, j'arrive. Attention, si vous ne ressentez plus le besoin de vous confier vraiment en Dieu, parce que, de toute façon, j'ai déjà fait, je sais faire. Attention, si vous recevez la gloire pour un service, pour avoir fait quelque chose pour le Seigneur, tu es sur une pente glissante. Attention. Alors, quelle est notre défense? Notre défense, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Vous savez, l'orgueil est tellement puissant comme arme de l'ennemi. Satan est tellement rusé de sa manière de faire comme adversaire que seulement une puissance plus forte que lui peut nous donner la victoire. C'est pour ça qu'on doit être vraiment, on doit demeurer en Christ. Bien sûr, cette puissance vient du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour que le Saint-Esprit puisse relâcher cette puissance en nous? Je pense aux paroles de l'apôtre Paul, en Romains chapitre 12, quand il dit « Offrez votre corps comme un sacrifice vivant, ce serait un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. » Quand notre corps physique, quand nos pensées et quand notre volonté, tout est consacré à Dieu, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit prend le volant de notre vie et c'est cette puissance intérieure qui fait contre-attaque aux pressions de l'extérieur et aux armes de Satan. Et Dieu nous donne la victoire. C'est facile à dire, pas aussi facile à vivre. Dans la guerre contre Satan, dans la guerre contre le péché, le seul moyen de gagner est de nous abandonner à Dieu. De se réveiller chaque jour en disant « Seigneur, voici mon corps. » Et sortir du lit. Hein? « Voici mon corps et je redors. » Non, ça ne va pas ça. Mais « Voici mon corps, Seigneur, et je me lève. » Ensuite, on ouvre la parole de Dieu. Voici mon esprit, Seigneur. Enseigne-moi. Et puis, Seigneur, prends ma volonté et je prie. Je prie. C'est assez simple, mais ça marche. L'étude de la Bible sans la prière, quelqu'un a dit, est comme l'huile de la lampe sans la flamme. Mais la prière sans la Bible est comme la flamme sans l'huile. Il faut les deux, n'est-ce pas? Et quand Satan attaque avec cette arme de l'orgueil, il faut vraiment dire, Seigneur, je t'abandonne ma vie à toi. Pour que le Saint-Esprit puisse produire cette humilité, cette soumission à suivre le Seigneur et faire sa volonté. C'est pas nouveau ce que je vous dis ce soir, mais franchement, c'est quelque chose, une lutte pour nous tous, tout le temps, de garder notre volonté fixée sur la volonté de Dieu. On va essayer de répondre aux questions sur votre feuille numéro 3, l'orgueilleux. Alors, de nouveau, la question, quel était le grand péché de David? C'est ce qu'on a vu. Mais pourquoi ce péché était si grave? Pourquoi?
Parce qu'il a cherché la gloire pour lui-même.
Il a cherché la gloire qui était due à Dieu pour attribuer à lui. Il voulait être vu devant le peuple. David, notre roi, il est formidable, n'est-ce pas? C'est pour ça que c'est souvent un problème. Et je me pointe les doigts aussi à un pasteur, quelqu'un de responsable dans une église. Quand les choses marchent, c'est pas nous. C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui fait marcher les choses. Et c'est facile de prendre la gloire que Satan nous pousse, disant, vous êtes vraiment bien. Hein? Non. Le Seigneur est bon. Et on a besoin de lui. L'orgueil gonfle l'homme, mais l'orgueil dérobe Dieu de sa gloire. Quel était le problème d'Ozias dans l'histoire? En 2 Chroniques 26, versets 15 et 16, quel était son problème? C'était l'orgueil. Tout allait bien pour lui jusqu'à ce que les choses marchent. Et là, je suis important. On voit ça tellement au sein des églises, même les bonnes églises, les gens qui sont vraiment consacrés au Seigneur, mais quand les choses marchent, c'est incroyable comment ça change l'esprit des gens. Comment l'Esprit de Dieu nous aide-t-il avec le problème d'orgueil? Comment l'Esprit de Dieu nous aide?
Il nous rappelle que tout ce qu'on a, c'est à cause de lui, et c'est à lui de donner le gloire.
Et où est-ce qu'on trouve qui nous sommes et qui il est?
Dans
sa parole. Donc, c'est exactement ça, Marc. Et il faut passer du temps dans la parole. Ça nous remet en place et ça donne la place à Dieu aussi. Il faut prier que Dieu nous aide à vivre dans l'humilité et la soumission à Dieu et de ne pas céder à ces tentations de penser que nous sommes mieux que les autres, parce que ce n'est pas vrai. Vous avez des questions? C'était peut-être pas très clair ce soir, je ne sais rien. Est-ce que je suis fatigué? Je sais pas. Oui.
Comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont humbles, on dirait qu'ils ne forcent pas pour l'être?
Je ne sais pas. Humilité, c'est une chose que si tu penses que tu l'as perdue.
On peut être orgueilleux d'être
humble. Au même temps, orgueilleux d'être humble. Très bien ça.
Et on peut aussi être orgueilleux d'être orgueilleux.
Aussi, oui. Pourquoi?
On le voit avec Moïse.
Tout à fait. Il n'est pas entré dans le pays.
Et il a pleuré devant l'Éternel. Et l'Éternel lui a dit, bon, maintenant ça suffit.
Et c'est parce qu'il a tapé le rocher au lieu de parler au rocher. Oui. Alors moi je dis, je ne serai jamais entré en Canaan, moi.
Oui, et puis qu'il l'a tapé deux fois.
Ouais.
accepter les compliments ou les choses que les gens disent, qu'on a, quoi. Au lieu de dire non, non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai.
Ça, c'est une fausse opinion.
Oui, en fait.
Donc, c'est un danger aussi.
Comme Herod. C'est Herod qui a. C'est l'inverse, en fait. Mais lui, il a accepté, il a dit moi, c'est un grand orateur.
Je suis un dieu.
Oui, après, le problème qu'il n'a pas donné gloire à Dieu pour ceux qui l'ont reçu.
Et sa femme, elle était pas beau.
Non, mais Paul le reconnaît aussi quand il dit que Dieu a laissé une épargne dans sa chair pour fouetter l'orgueil.
Exactement.
La grâce, il y a aussi l'histoire du Zan, de celui qui retient l'arche et que Dieu le tue. On se demande pourquoi. Mais est-ce que c'était lui il était victime, mais c'était pas lui le coupable.
Il me transportait là. Ça, je ne peux pas dans le sens que Dieu ne demande
pas. Il a embarqué selon la procédure que Dieu voulait. Et Usain a été victime.
Est-ce que c'était une organisation de l'univers?
Donc, ouais, là, je suis hors sujet.
Et puis, je crois qu'on peut dire que l'orgueil est à l'opposé de l'amour.
Dans quel sens?
L'amour donne, se donne, l'orgueil prend. Et l'amour est la caractéristique de Dieu et l'orgueil celle de Satan.
C'est une âme puissante entre les mains de l'ennemi. Hein. Combien de bons chrétiens sont tombés avec cette arme de l'ennemi, en pensant qu'ils étaient ce qu'ils faisaient et il y avait des résultats à cause d'eux, au lieu de rendre gloire à Dieu. C'est vraiment dommage.
Quand on est atteint par l'orgueil, au début c'est un peu comme le cancer, on ne sait pas. Une fois qu'on le sait, c'est pour ça.
Ouais, ça.
Pas toujours.
Et Satan nous aveugle à ça. Il dit, tu vois, l'applaudissement des autres. Tu fais bien, tu n'as pas besoin de Dieu. Il y a des pensées qui entrent, qui. Ouais, j'ai déjà fait ça, donc.
Il y a des fois des gens qui vous entourent, qui nourrissent votre
enfant. Ah, ben ça, c'est un problème. Un gros problème. Bon, je vais prier. Il y a autre chose? Je vais prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour le travail du Saint-Esprit dans notre cœur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, il n'y a pas de résultat de notre témoignage. Il n'y a pas de résultat de fruit dans notre vie. On a vraiment besoin de toi. Et Seigneur, des fois, quand les choses marchent, on commence à prendre la place qui est à toi. Et penser que nous sommes arrivés. Pardonne-nous, Seigneur. Donne-nous un cœur humble à te servir et de savoir que si jamais il y a des résultats, ça vient de toi. Merci de nous guider. Merci de nous aider à ne pas être trompés par l'ennemi, par ces choses, ces armes qui sont puissantes. Au nom de Jésus. Amen.
Ben, je peux louer le chant et je te prie. Je vous demande de vous lever et nous terminerons avec ce cantique. Sois mon ancre, sois ma voile.